Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On peut pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien, là. C'est trop rapide pour moi. J'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CMDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'économie en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de nuances de couleurs, d'éoliennes et de faillites bancaires. À moins que vous ayez passé les 10 dernières années dans une cabane dans les bois, sans connexion Internet, il ne vous aura pas échappé que l'environnement ne se porte pas très bien. Et d'ailleurs, même si vous avez passé 10 ans dans une forêt, vous avez dû vous en rendre compte.
Pendant que l'Europe grelotte sous une vague de froid, le pôle Nord, lui, connaît un pic de chaleur.
Plus de 2 mois après les inondations, c'est toujours un défilé d'engins de chantier à Mechos.
La Suède, touchée à son tour par des feux de forêt massifs, on se croirait en Californie.
Dans la catastrophe humaine qu'on est en train de vivre dans le Var, eh bien on est en train de vivre une catastrophe écologique.
Alors, que faut-il faire? Arrêter de consommer et de produire? Pas facile du jour au lendemain. Utiliser moins d'énergie? Ok, mais comment on fait si on en a un besoin vital? Ou alors décarboner notre production en utilisant moins d'énergie fossile? Ah ça, c'est pas mal. Mais ce n'est pas vous ou moi qui devons mettre en place ces mesures. Ça suppose des nouvelles entreprises, voire une réorientation complète du financement de l'économie. Imaginez si Total ou Shell devaient se reconvertir dans les éoliennes ou les barrages hydroélectriques. Si tous les constructeurs automobiles devaient se mettre à produire des véhicules plus légers et électriques. Si les centrales à charbon cédaient la place à des énergies renouvelables. En fait, vous n'êtes pas en train de rêver. C'est ce que l'on commence déjà à voir, en Europe notamment, au moment même où je vous parle. Les entreprises qui exploitent pour pas cher des énergies fossiles abondantes vont être obligées de changer de business model. Parce que le gaz et le pétrole deviennent plus chers, je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Mais aussi parce que les financements peuvent devenir plus difficiles à trouver pour forer des puits de pétrole si la demande de pétrole baisse. Et dans le même temps, investir dans des panneaux solaires ou des projets de recyclage, c'est dès maintenant profitable et ça le sera de plus en plus. Dans un monde idéal, l'urgence climatique devrait être intégrée par les marchés financiers. Et ça devrait conduire à ce que dès maintenant, on ne finance plus que des investissements verts, c'est-à-dire qui contribuent à permettre de diminuer le réchauffement climatique. Et si les marchés financiers s'en préoccupent, ce n'est pas par altruisme, bien sûr. C'est parce qu'ils ne peuvent pas ne pas s'intéresser aux risques que le changement climatique fait peser sur notre modèle actuel de développement, y compris aux risques sur les profits des entreprises. J'en ai parlé avec Nadia Allemand, économiste chez BSI Economics.
Actuellement, on distingue, il y a plusieurs mesures des risques climatiques qui sont prises en compte. On parle essentiellement des risques physiques, c'est-à-dire des changements persistants du climat et d'une augmentation des événements météorologiques extrêmes, comme par exemple les inondations, les sécheresses ou les incendies. On parle aussi des risques de transition. Ceux-ci, ce sont des risques associés à l'ajustement vers une économie à plus faible émission de carbone. Dans ce cas-là, on peut par exemple penser à des dépréciations d'actifs, à des pertes de contrats d'assurance, etc. Les risques physiques et les risques de transition peuvent entraîner en fait des chocs d'offres négatifs, des augmentations de prix et par conséquent des ralentissements de l'activité. Dans ce sens-là, les risques climatiques peuvent avoir un impact direct ou indirect sur des variables macroéconomiques telles que la production, l'inflation, les taux d'intérêt et les prix des actifs, par exemple.
Dans le pire des scénarios, on ne change rien à notre mode de vie actuel et on continue à polluer encore plus. On va donc tout simplement voir des crises importantes. Des crises climatiques au sens strict du terme. C'est ce que Nadia Allemand appelle les risques physiques. Mais aussi des crises financières. Une banque qui finance des entreprises de charbon dont plus personne n'achète le produit, par exemple, c'est une banque qui s'expose à un gros risque de solvabilité. Et ça, bien sûr, les banquiers le savent dès maintenant. Oui, mais voilà. Comme on va le voir aujourd'hui, pour l'instant, la finance verte, ça concerne une petite partie des marchés financiers, pas à la hauteur des enjeux dont on parle. La survie de l'humanité au XXIe siècle, rien que ça. Les obligations vertes, dont on va reparler dans un instant, ça représente moins de 300 milliards de dollars de dettes émises par les entreprises en 2020, sur un total de 10 000 milliards de dollars d'obligations. Donc il va falloir lui donner un coup de pouce, et peut-être même un peu plus. Quel genre d'acteurs pourrait encourager la réorientation du financement de l'économie vers plus de vert et moins de carbone? Vous avez deviné, les banques centrales. En même temps, c'était facile, c'est le titre de l'épisode. Les banques centrales s'inquiètent déjà des risques dont je vous ai parlé plus haut. Elles ont même lancé des programmes d'évaluation de ces risques pour mesurer à quel point le système bancaire pourrait être affecté si le dérèglement climatique se poursuit. C'est le cas de la Banque Centrale Européenne, par exemple.
Actuellement, l'impact de ces risques est mesuré à travers de ce qu'on appelle des stress tests ou des tests de résistance climatique qui servent à évaluer la résilience d'un agent face à des différents scénarios de transition écologique. Ces tests constituent au final des évaluations de la santé financière d'un agent qui analyse sa capitalisation et la qualité de ses actifs face à des chocs climatiques. Pour ceci, la BCE est actuellement en train de s'appuyer sur des scénarios de transition écologique qui ont été développés par le réseau pour le verdissement du système financier, le NGFS, c'est-à-dire le Network for Greening the Financial System, qui actuellement regroupe 83 banques centrales et superviseurs au niveau international dans le but justement de développer la finance verte.
En fait, la BCE identifie trois scénarios. Dans le premier cas, une transition ordonnée avec une limitation des gaz à effet de serre pour respecter l'accord de Paris de la COP21, c'est-à-dire 1,5 degré de plus que les niveaux pré-industriels. Deuxième cas, une transition désordonnée avec des mesures de limitation des émissions plus tardives à partir de 2030. Enfin, le dernier cas est celui d'un monde chaud, sans aucune mesure pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas de figure, on se dirige vers les 3 degrés de réchauffement en moins d'un siècle, mais entre-temps, l'économie va en subir les effets.
C'est donc sur la base de ces scénarios climatiques et de modèles économétriques propres que la Banque Centrale Européenne construit ses prédictions. Alors, en septembre de l'année dernière, la BCE a rendu public les résultats de ses premiers stress tests climatiques qui ont été faits sur des banques et sur des entreprises, concrètement sur 4 millions de sociétés dans le monde et sur 1600 banques dans les 19 pays de la zone euro. Et la principale conclusion de ce premier stress test climatique est que, à l'horizon 2100, la BCE estime que l'impact du réchauffement climatique sur le PIB européen serait de jusqu'à 2% en cas de transition qu'on appelle dans cette étude désordonnée, et de jusqu'à 10% en absence de nouvelles politiques de mitigation vis-à-vis d'une transition ordonnée.
On risque donc de perdre un dixième de l'économie européenne si on ne fait rien. Et encore, c'est une estimation assez prudente. Bon, autant dire qu'il faut éviter de ne rien faire. Non seulement du côté des responsables politiques, mais aussi du côté des marchés financiers. Le premier travail des banques centrales, c'est donc de leur faire prendre conscience que ces risques sont immédiats et coûteux. D'où la création du NGFS, le réseau des banques centrales et des superviseurs pour verdir le système financier. C'est la Banque de France qui en assure le secrétariat, d'ailleurs. Cependant, chiffrer les coûts liés à ces risques, c'est extrêmement difficile. On sait combien une marée noire coûte à l'assureur de la compagnie maritime et à celui de la compagnie pétrolière impliquée. On sait aussi chiffrer beaucoup de risques physiques dans le même genre. Incendies, inondations, sécheresses, mauvaises récoltes ou même déplacements de population. On sait également, au moins de manière approximative, évaluer les risques de faillite d'entreprise dans le secteur de l'assurance pour ce genre de raisons. Mais comment on évalue le risque que l'action Total, Shell ou BP ne vaille plus rien demain? À ce stade, vous pourriez vous demander, après tout, que Total, Shell ou BP fassent faillite, ce n'est pas une grosse perte, si? Eh bien si, en particulier pour les acteurs des marchés financiers qui ont beaucoup d'actions de ces entreprises dans leur portefeuille d'actifs. Pour simplifier, si votre banque a aussi pour client de gros pétroliers, elle devra dire adieu à une partie de ce que ces derniers lui doivent. Si un jour la Chine, par exemple, décide de faire passer tout son parc automobile à l'électrique en 10 ans, alors les compagnies pétrolières vont très rapidement dévisser. Et si tout le monde doute de la capacité de votre banque à encaisser ce genre de risque, il est possible qu'elle finisse par faire faillite. C'est un exemple fictif, bien sûr, mais il illustre un problème épineux pour ce qui nous concerne aujourd'hui, celui des actifs échoués.
La majeure partie des réserves de charbon, pétrole et gaz excède le budget carbone mondial et ne pourra pas être consommée. Selon le think tank anglais Carbon Tracker, la valeur des compagnies dédiées à l'exploitation des énergies fossiles est surévaluée et condamnée à baisser à l'avenir. Les actifs de ces compagnies-là sont donc condamnés à se déprécier et c'est ce qu'on appelle les actifs échoués ou en anglais les stranded assets. Ils représentent évidemment une menace pour le système financier vu qu'à un certain moment, avant la fin de leur vie, ils ne seront plus rentables et devront être éliminés des bilans de leur compagnie, dû à des changements associés à la transition vers une économie bas carbone. Les actifs échoués ne concernent pas uniquement les énergies fossiles, mais, mais aussi en industrie associée à la génération électrique. On peut penser au nucléaire, des secteurs de l'immobilier, des infrastructures de transport, etc. De même, la mise en place abrupte de politiques climatiques ou de conservation vers des nouvelles, de conversion vers des nouvelles technologies pourrait miner la confiance des investisseurs et les rentabilités futures des industries intensives en carbone, ce qui pourrait entraîner des réévaluations des actifs financiers en les rendant beaucoup plus vulnérables.
En termes moins polis que ceux de Nadia Allemand, un jour, en raison même des politiques qui visent à réduire les énergies fossiles, les actions de ces entreprises et les obligations qu'elles émettent ne vaudront plus rien. Or, l'un des rôles des banques centrales, qui s'est d'ailleurs nettement affirmé depuis la crise des subprimes, c'est celui de prêteur en dernier ressort. Pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, si votre banque a des millions de clients et que son bilan pèse 2000 milliards d'euros, eh bien la BCE ne peut tout simplement pas la laisser faire faillite, parce que ça créerait une énorme onde de choc. C'est ce qu'on appelle une banque « too big to fail », ou pour le dire autrement, un risque systémique. Vous imaginez la BCE contrainte de sauver en urgence une grosse banque qui subit une attaque spéculative en raison de son exposition aux énergies fossiles ? Oui, ce serait affreux. Et plus généralement, comme le dit Nadia Allemand,
ceci met en alerte les banques centrales qui ne souhaiteraient pas se retrouver dans un rôle, de sauveur climatique de dernier secours, à devoir éventuellement acheter des actifs dépréciés afin de garantir la stabilité financière. Dans ce sens-là, ces actifs échoués représentent un vrai défi pour les banques centrales.
Et puis en matière de finances, il n'y a pas que des signes blancs. Il y a aussi des signes noirs et même des signes verts. Non, je ne suis pas en train de changer de sujet et de vous faire un cours d'ornithologie. L'idée de signe noir désigne un risque très peu probabilisable, mais aux conséquences désastreuses. Pensez au 11 septembre 2001, ou encore à la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. C'est une expression que l'on doit à Nassim Nicholas Taleb dans un livre paru en 2007. Et ça a donné l'idée à d'autres économistes d'appeler « signe vert » les événements désastreux mais hautement incertains du réchauffement climatique. Si demain, un iceberg de la taille du Royaume-Uni se détache de l'Antarctique et commence à fondre, alors le niveau de la mer montera bien plus rapidement que ce à quoi on pouvait s'attendre jusque-là. On peut toujours se dire « il y a une chance sur 10 000 pour que ça arrive demain ». Mais d'une part, ça restera extrêmement grave si ça se produit. D'autre part, on ne sait même pas lui attribuer une probabilité, en fait. Ça, c'est un problème qu'avait bien vu Martin Whiteman dans un article qui date déjà de 2011. En matière de réchauffement climatique, on a tendance à sous-estimer ce que l'on ne sait pas calculer. Or, c'est précisément les événements les plus incertains, dans le sens où on ne peut même pas calculer la probabilité qu'ils se produisent, qui peuvent être les plus graves.
Les signes verts, qui, au passage, sont aussi appelés parfois signes noirs climatiques, représentent effectivement un exemple du concept de fat tail uncertainty de Martin Weissman, dont vous faisiez référence. Et en termes de données, ceci veut dire que le caractère non linéaire des événements climatiques et en même temps le manque de recul historique ne permettent pas de s'appuyer sur des modèles prédictifs pour anticiper quand est-ce que les catastrophes climatiques auront lieu. Weissman affirme dans son papier de 2011 qu'une upper fat tail illustre le fait que la probabilité d'occurrence d'une catastrophe n'est pas suffisamment négligeable pour qu'on puisse se sentir à l'aise avec.
Les financiers n'aiment pas l'incertitude. Ils préfèrent les événements que l'on peut probabiliser. Donc, ils ont tendance à sous-estimer des risques très graves, mais très peu probables, comme, au hasard, la faillite de Lehman Brothers.
Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas ?
Exactement. Je prévois l'avenir.
Tu l'as prévu, celle-là ?
En somme, il s'agirait de sortir de ce que l'ancien chef de la Bank of England, Mark Carney, a appelé en 2015 la tragédie des horizons. Les marchés financiers raisonnent à court terme. En 2022, les mines de charbon sont encore très profitables. Et d'ailleurs, si on commence à en produire moins, il est tout à fait possible que le prix du charbon augmente, et donc que les profits de ce genre d'entreprise augmentent dans les années à venir. Mais pour combattre le réchauffement climatique, il faut un horizon de plusieurs dizaines d'années. Les investissements en la matière peuvent être très coûteux aujourd'hui, mais il faut absolument les faire si on ne veut pas le payer bien plus cher dans 20 ans. L'un des instruments pour orienter le financement, c'est justement la couleur de l'étiquette que l'on appose sur les projets d'investissement et qui peut être un critère pour que des ménages, des États ou même des fonds d'investissement les choisissent.
La capacité à distinguer entre les actifs verts et bruns n'est pas toujours évidente vu l'existence de nombreux critères standards et taxonomies. Si on pense au premier critère utilisé, on peut par exemple parler des Green Bond Principles, qui ont été créés en 2014 par un groupe de grandes banques d'investissement. On peut citer quelques-unes, Bank of America, Crédit Agricole, JP Morgan, etc. Et actuellement, c'est la International Capital Market Association qui, de façon indépendante, est en charge de la surveillance et développement de ces lignes directrices. Les Green Bond Principles mettent l'accent sur la transparence, l'intégrité et l'exactitude des informations publiées et soumises aux investisseurs. Alors, ils se centrent sur quatre principales lignes directrices qui sont volontaires. D'une part, l'utilisation des fonds, le processus de sélection et évaluation des projets, la gestion des fonds au sein de la comptabilité générale de l'émetteur et le reporting, c'est-à-dire les informations sur l'usage des fonds et, si possible, sur l'impact environnemental des investissements. Mais les Green Bond Principles ne fournissent pas une définition de ce qu'on doit considérer vert. C'est aux émetteurs des obligations de déterminer cela. Donc, pour gagner en crédibilité, il est souvent conseillé de faire vérifier le respect de ces principes par un auditeur externe. On peut aussi citer le Green Bond Standard, élaboré par Climate Bonds Initiative, qui est une organisation à but non lucratif soutenue par des grandes banques, des fondations, des Nations Unies et même l'Union européenne. Là, ce standard fournit une classification détaillée par secteur des actifs pouvant être qualifiés de vert et pouvant prétendre à son label. Certains pays ont également dicté des lignes directrices officielles pour les obligations vertes. C'est le cas, par exemple, de la Chine, l'Inde ou le Maroc, pour citer quelques exemples. Qui ont donc défini des règles qui visent à faciliter le financement des programmes nationaux de transition bas carbone en développant les marchés financiers nationaux et leur attractivité internationale. En France, par exemple, il y a le label transition énergétique et écologique pour le climat qui vise à mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique en certifiant des fonds d'investissement.
On pourrait encore multiplier des exemples. Des labels qui certifient que le produit financier que vous achetez est vert, il en existe des dizaines. C'est donc devenu aussi difficile de s'y repérer que dans un magasin de légumes qui vend des produits locaux, mais pas bio, mais en agriculture raisonnée, sans pour autant être biodynamique, etc. D'autant plus que ce sont pour l'instant des sociétés financières qui évaluent entre elles la qualité plus ou moins verte des produits en question. Et ça peut aller jusqu'au greenwashing. Il fut un temps pas si lointain où certains projets d'exploitation de charbon étaient financés avec des green bonds, simplement parce qu'il polluait un peu moins que les mines de charbon précédentes. En mars 2021, l'ancien directeur de la branche finance verte de BlackRock, Tariq Fancy, a bruyamment claqué la porte en dénonçant le fait que pour l'instant, la finance verte, c'est, je cite, « essentiellement de la com et des fonds d'investissement qui n'ont rien changé, mais se sont repeints en vert ». Est-ce qu'elle ne pourrait pas intervenir pour proposer des critères plus stricts ou simplement plus lisibles pour distinguer le vert foncé du vert clair ou du brun?
C'est un peu ce qu'on essaye de faire en ce moment. Au niveau européen, on travaille sur la taxonomie européenne. Donc justement, l'objectif est de trouver ce langage commun, ces définitions communes pour arriver à cette transparence et à cette comparabilité au niveau des données. Après, c'est vrai que ça reste une taxonomie volontaire. Donc, il existe différentes taxonomies, différents standards, différents labels et évidemment une multiplicité de méthodes d'analyse différentes. Donc au final, la comparabilité reste limitée. Mais bon, le fait d'avoir déjà des repères communs va faciliter la question. Et évidemment, l'objectif est de continuer à travailler dans ce sens-là pour justement arriver à un langage commun.
La taxonomie européenne, c'est la Commission qui a commencé à la proposer, pas la BCE. Il s'agit de classer des projets d'investissement en plusieurs nuances de vert, histoire de rendre publique et transparente cette information. Ça se fait selon la contribution de ces projets à 6 objectifs écologiques, dont le premier est l'atténuation du changement climatique. Mais ça donne aussi lieu à d'intenses négociations entre les États membres de l'UE pour faire intégrer le gaz naturel ou le nucléaire aux activités vertes, par exemple. Pas étonnant qu'il y ait de gros désaccords en la matière, mais c'est encore une grille d'évaluation imparfaite et pas terminée. Dans d'autres régions du monde, en Chine par exemple, les banques centrales et les autorités de supervision des marchés ont été associées à ces processus de négociation pour définir des nuances de vert et labelliser ainsi le financement. Mais ça reste embryonnaire et ça évolue lentement. L'une des raisons de cette lenteur, c'est tout simplement que les banques centrales ont des tas d'autres choses à faire, et que leur mission première n'est pas d'œuvrer pour la sauvegarde du climat. Les plus conservateurs vous expliqueront d'ailleurs qu'elles n'ont pas à financer entre les différentes banques qu'elles refinancent. Une banque centrale, ça distribue de la monnaie centrale à des banques de second rang. Que ces dernières soient activement liées à l'industrie du pétrole ou engagées dans l'économie circulaire et la sauvegarde de la biodiversité, peu importe. Dès lors qu'elles font correctement leur travail de banque et qu'elles respectent le cadre réglementaire qu'elles leur imposent, la BCE est là pour leur prêter de la monnaie, point barre. Idem pour la Fed, la banque centrale américaine, ou n'importe quelle autre banque centrale. C'est un principe que l'on appelle la neutralité de marché. Et respecter cette neutralité est nécessaire pour que le marché interbancaire fonctionne bien. C'est-à-dire pour atteindre le premier objectif des banques centrales, la stabilité monétaire. En pratique, on remarque quand même que les banques centrales ont souvent l'habitude de jurer qu'elles se lieront les mains dans le dos avec un mandat très limitatif et de ne pas vraiment le respecter ensuite. C'est tout particulièrement le cas depuis la dernière décennie, et surtout depuis la crise du Covid. On a vu par exemple se développer des programmes de quantitative easing, qui consistent pour la BCE ou la Fed à racheter des titres de dette publique en grande quantité aux banques qui les avaient achetés au départ. Ce n'est pas un financement des États. Oh là là, non, pas du tout, parce que ça, c'est vraiment interdit. Mais bon, les deux tiers des titres de dette d'État émises par la France depuis 2020 se sont retrouvés dans les caisses de la BCE. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu élargir leur mandat ? Faire du green quantitative easing, par exemple.
L'achat massif de green bonds pourrait pousser à la baisse les taux d'intérêt des projets concernés en permettant, d'une part, la diminution de leurs coûts de financement, en rendant éventuellement plus intéressantes les missions d'obligations vertes versus la demande de financement auprès des banques. Et d'autre part, en rendant ce genre d'actifs relativement plus attirant pour les investisseurs vis-à-vis des obligations conventionnelles. À différence des quantitative easing traditionnels qui visent à relancer l'économie dans son ensemble, un green quantitative easing serait strictement ciblé sur des projets contribuant à la transition écologique. Même si les banques centrales ne seraient pas vraiment contraintes alors de modifier leur mandat pour justifier des programmes d'achat de green bonds, en fait, ces actions seraient déjà justifiées par leur mandat actuel qui concerne la stabilité financière et la stabilité des prix. La BCE s'est penchée sur la question de cette demande de green quantitative easing et a conclu qu'au final, ce genre de programme n'a pas des effets vraiment significatifs et que, dans tous les cas, les effets positifs resteraient temporaires.
Pour l'instant, donc, la BCE tâte un peu le terrain. Mais vous remarquerez, comme moi, à quel point l'objectif de stabilité des prix peut, en définitive, servir de justification assez commode à des mesures assez novatrices. Je reviens sur ce que disait à l'instant Nadia Allemand, et qui est en fait le cœur de la question que l'on traite aujourd'hui, même si ça reste une hypothèse, pas encore une réalité. En achetant des obligations vertes, la BCE, par exemple, réduirait la prime de risque qui est associée à ces financements, et donc ferait baisser les taux d'intérêt. Vous hésitez à acheter telle ou telle obligation ? Si la BCE en achète, c'est que ce n'est pas très risqué. Or, initialement, les taux d'intérêt peuvent être plus élevés pour financer des parcs d'éoliennes en mer, par exemple, que pour une centrale thermique à flamme. Parce que c'est une technologie encore jeune, qui met des années avant de produire ses premiers kilowattheures, et qui est plus risquée qu'une bonne vieille chaudière à fioul. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les banques centrales pourraient effectivement orienter davantage de financement vers les énergies renouvelables. Pas mal, non ? On n'en est pas encore là. Mais il y a deux manières de voir le rôle que les banques centrales peuvent ainsi jouer. Vous pouvez vous dire que c'est une ingérence malvenue dans l'allocation des ressources par le marché, et que les banques centrales n'ont après tout pas plus de capacité à discriminer ce qui est vert foncé, vert clair ou brun que des fonds spécialisés. Peut-être même en sont-elles moins capables. Vous pouvez aussi voir cette intervention en faveur de la finance verte comme un moyen de dérisquer, comme on dit en anglais, des projets jusque-là trop risqués. C'est la manière dont des auteurs plus critiques, comme Daniela Gabor et Benjamin Brown, raconte cette histoire. Le système financier actuel repose beaucoup sur les banques centrales et les États pour transformer des objets sans valeur en actifs financiers. Une tonne d'émissions de carbone, c'est de la pollution. Mais ça s'échange aussi sur le marché des droits à polluer européens. De même, une éolienne, ça ne vaudrait pas grand-chose s'il n'y avait pas des prix d'achat garantis pour l'électricité ainsi fabriquée. On vous en a parlé dans un épisode de l'an dernier sur EDF. De même pour le recyclage, ou pour les assurances contre les catastrophes climatiques. Ce sont des actifs financiers qui n'ont de valeur, en définitive, que grâce à leur circulation sur un marché, dont le fonctionnement repose en dernière analyse sur les banques centrales. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la finance verte n'existe que parce qu'il y a des banques centrales pour la garantir. C'est déjà le cas. La question c'est jusqu'où ces dernières sont prêtes à aller pour accélérer le financement des investissements verts et freiner les investissements bruns. C'est une question politique. Ce serait donc une bonne chose que les banques centrales n'y répondent pas toutes seules, en toute indépendance. Splash est une émission de nouvelles écoutes. Elle est présentée et écrite par moi, Emmanuel Martin. Interview réalisée par Mathilde Jeunin. Production et réalisation Marine Rowe. Mixage Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Coordination par Mathilde Jeunin.